Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous vous proposons de parler des différentes maladies d'une partie de notre appareil respiratoire qui n'est pas forcément connue du grand public. Il s'agit de la plèvre. C'est d'ailleurs souvent à l'occasion d'un diagnostic de pneumothorax ou de pleurésie que l'on se familiarise avec cette partie de notre anatomie. Une membrane protectrice située donc dans la zone des poumons. Douleurs, difficultés respiratoires ou un essoufflement peuvent être le signe d'une affection de la plèvre. Atteinte primaire quand il n'y a pas d'autres troubles, secondaire lorsqu'une affection antérieure va venir expliquer le problème ou le révéler. Dans cette émission, il sera aussi question de prévention, puisque nous allons parler des facteurs favorisant ou déclenchant les maladies de la plèvre, et puis les prises en charge. Dans quel cas faut-il consulter en urgence? Quels examens ou explorations permettront de poser un diagnostic certain? Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous joindre au 33 7 61 18 46 41, c'est notre numéro WhatsApp. Comment distinguer les différentes atteintes de la plèvre? Certaines expositions dans le cadre professionnel, par exemple, peuvent-elles favoriser certaines de ces affections? On retrouve en studio le professeur Louis-Jean Coudert. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes professeur de pneumologie, ancien chef du service de pneumologie de l'hôpital Foch à Suresnes en région parisienne. Tout à l'heure, on retrouvera en Côte d'Ivoire, on donnera la parole au professeur Bernard Ngorankofi, qui est chef du service de pneumologie du CHU de Cocody d'Abidjan, membre de la Société de pneumologie de langue française et ancien président de la Société ivoirienne de pneumologie. Et puis en fin d'émission, la chronique de Bintou Chersek, nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Et on va au plus simple, on va commencer par une petite leçon d'anatomie, si vous le voulez bien, professeur Louis-Jean Coudert. La plèvre, où est-ce qu'elle est située et elle sert à quoi?
Alors, vous avez raison, je crois qu'il faut commencer par le commencement, donc par l'anatomie. Alors la plèvre, c'est toujours assez mystérieux. La plèvre, c'est un paquet cadeau qu'on a autour du poumon. Il y a deux parties dans la plèvre, deux petits feuillets, un qui est posé sur le poumon, qui l'enrobe exactement comme un très joli paquet, et l'autre qui est posé sur les côtes. Et entre les deux, c'est là où c'est magique, il y a du lubrifiant, ce qu'on appelle le liquide pleural. Un individu adulte en sécrète à peu près 5 à 20 millilitres par jour. Et en permanence, il y a un turnover. C'est sécrété et réabsorbé par des petits canaux non visibles à l'œil nu. Et tout ceci permet que notre poumon dans la cage thoracique et sur le diaphragme c'est le muscle qui sépare l'abdomen du thorax, ça marche très bien et qu'on puisse respirer sans la moindre douleur en temps normal.
Vous dites poumon au singulier, est-ce qu'on a deux plèvres, une plèvre par poumon?
Alors, on a effectivement un paquet de plèvres à droite, un paquet à gauche, et on a un petit frère, si je puis me permettre, nos cardiologues ne seraient pas contents, j'ai un petit frère, qui est le péricarde, qui a exactement le même rôle autour du cœur. Voilà, donc, en temps normal, tout marche très bien, mais quelquefois, il y a un problème.
Alors précisément, qu'est-ce qui peut fragiliser ou abîmer la plèvre?
Alors, je pense qu'il faut raisonner plutôt en fonction du type de problème qui survient. Et schématiquement, il y a deux types de problèmes. Et je pense que vos auditeurs connaissent les mots. C'est quand de l'air pénètre entre les deux feuillets de la plèvre, ça s'appelle un pneumothorax, ou bien quand il y a du liquide en quantité anormale, c'est-à-dire plus que les 5 à 20 millilitres dont je vous ai parlé, et ce qu'on appelle une pleurésie. Et après, la démarche est un peu différente. Les pleurésies posent un problème de diagnostic, de cause, parce que c'est un symptôme, c'est pas réellement une maladie, il faut comprendre pourquoi on a une pleurésie. Voilà, donc c'est deux maladies assez différentes qui donnent un même symptôme. Le symptôme cardinal des maladies pleurales, c'est la douleur. Alors, une bonne nouvelle ou une mauvaise, c'est au choix. La gravité de la maladie n'est pas du tout reliée à la douleur. C'est-à-dire que à la limite, c'est juste l'inverse, et on comprend bien maintenant pourquoi, parce qu'il y a de l'espace à ce moment-là qui se met entre les deux feuillets, si vous avez un litre de liquide pleural, parce qu'on peut avoir une cage thoracique d'un adulte standard, contenir à peu près jusqu'à 3 litres de liquide, vous voyez, c'est énorme 3 litres. Donc les deux feuillets s'écartent, vous n'avez plus mal, parce que ce qui fait mal, c'est quand les deux feuillets frotte l'un sur l'autre. Par contre, vous êtes essoufflé. Si vous avez juste quelques millilitres en trop, les deux feuillets malades, inflammatoires, vont frotter à chaque fois que vous respirez et vous allez avoir mal. Mmh. Le maître symptôme, c'est la douleur, parce qu'un épanchement avant d'être grand, il est petit, comme dirait M. Lapelis. Et donc, vous avez toujours mal. On peut retenir qu'il ne peut pas y avoir de maladie pleurale s'il n'y a pas eu un moment une douleur.
Alors, ça veut dire s'il y a une douleur, on n'a pas mal au poumon, on a mal à la plèvre.
Voilà, exactement. Le poumon n'est pas innervé. Ça, on en avait déjà parlé, je crois, une fois dans notre trentaine. Le poumon n'est pas innervé, ce qui évidemment est une bonne chose, on n'a pas de douleur, ce qui est une mauvaise chose, parce que des maladies graves peuvent s'y développer sans qu'on s'en rende compte.
Alors, le diagnostic, on a compris qu'il pouvait y avoir cette présence d'air qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas recommandée, soit cette présence de liquide en surplus qui n'est pas recommandée. Qu'est-ce qui va distinguer l'un de l'autre ? Est-ce qu'il y a un examen clinique qui peut suffire ? C'est-à-dire, déshabillez-vous, cher patient, et je vois ce qui se passe.
Alors, l'examen clinique est évidemment très important pour deux aspects. Premièrement, faire le diagnostic, c'est-à-dire voir si c'est plutôt de l'air ou du liquide, voire les deux. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est d'apprécier la tolérance. Ce n'est pas spécifique aux maladies de la plèvre, mais dès que vous avez quelque chose au niveau pulmonaire qui dysfonctionne, il faut que vous appréciez la tolérance. Et on va vite comprendre, entre un jeune athlète de 20 ans et son arrière-grand-père, le même volume de liquide ne va pas avoir la même conséquence, la vitesse de la prise en charge ne va pas être la même. Et ça, c'est un point très important, plus que le volume, c'est la tolérance qui est fonction de votre état de santé, des éventuelles maladies que vous avez, de votre âge, etc. Alors oui, pour répondre à votre question initiale, l'examen clinique ne va pas être le même. Quand il y a de l'air, c'est un peu comme un ballon. Si vous tapez, ce qui fait partie de l'examen clinique, vous avez un son un peu clair, ça s'appelle un tympanisme. Si à l'inverse, vous avez anormalement d'eau, vous aurez un son au contraire mat, sourd, ce qu'on appelle une matité. L'examen clinique, il est aussi très fonction de deux choses. Premièrement, la taille de l'épanchement. Sur un tout petit épanchement, l'examen clinique peut être normal.
Quand vous dites épanchement, pleurésie, c'est la même chose.
Oui, c'est ça, que ce soit. D'accord. Et donc, ça, on comprend bien maintenant. Plus c'est petit, plus l'examen clinique va être normal. Plus l'épanchement, qu'il soit gazeux, c'est-à-dire de l'air ou liquidien, il va être anormal. Le maître examen après la clinique, qui est le point très important pour la tolérance, c'est la radiographie thoracique. La radiographie thoracique est un élément indispensable au diagnostic. D'abord pour le diagnostic, pour le suivi, pour voir l'évolution.
Est-ce que certaines atteintes de la plèvre relèvent de l'urgence ? J'entends par là, professeur Coudert, urgence vitale.
Alors, rarement, très rarement. Alors, les atteintes qui sont vitales, c'est celles qui sont mal tolérées. Alors, les pneumothorax peuvent être mal tolérés si vous êtes déjà de base insuffisant respiratoire, si vous êtes insuffisant cardiaque. Un pneumothorax de taille modérée peut être très mal toléré. Si vous êtes jeune, un pneumothorax très volumineux peut être mal toléré. Donc à nouveau, l'examen clinique est indispensable. Oui, là, oui, mais ce n'est pas quand même très fréquent. Et je pense qu'on va peut-être aborder, dans l'ordre que vous le souhaitez, les problèmes des pneumothorax et les problèmes des épanchements liquidiens, c'est-à-dire les pleurésies. Les pneumothorax, une cause importante, il y a deux types de pneumothorax, ceux qui surviennent quand vous avez un choc et ceux qui surviennent quand vous n'avez pas de choc.
Alors précisément sur ces questions sur le pneumothorax, on a un auditeur du Niger qui se prépare d'ailleurs à être soignant, Armand de Maradi, qui nous a laissé ce message sur le répondeur WhatsApp de l'émission. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, Priorité Santé. Je réponds au nom de Ewa Arma, âgé de 26 ans, étudiant en médecine. Mes questions sont les suivantes. Pourquoi le tabac est-il un facteur de risque chez un sujet jeune plutôt que chez un sujet âgé et obèse? Hormis le tabac, existe-t-il d'autres facteurs de risque chez un sujet jeune? Je vous remercie.
Alors, question d'Armand, étudiant en médecine, qui a peut-être d'ailleurs se diriger vers votre spécialité, la pneumologie, professeur Louis-Jean Coudert. D'abord, le pneumothorax, le tabac, facteur de risque pour tout le monde ou pour les jeunes?
Alors, tout d'abord, je voudrais féliciter Armand. C'est très bien qu'il s'oriente vers la pneumologie. Nous manquons de pneumologues. Alors, le tabac est un facteur de risque de toute maladie respiratoire, si on fait simple. Mais ce n'est pas un facteur de risque suffisant, causal. C'est un facteur de risque surajouté. Alors là, après, il ne faut pas faire de mélange. Ce dont parle Armand, c'est les pneumothorax spontanés, c'est-à-dire ceux qui surviennent, vous êtes assis ici dans le studio et brutalement, vous avez une douleur, vous faites un pneumothorax. Alors, en général, ça survient parce qu'il y a au niveau du poumon des petites bulles non visibles à l'œil nu qui se rompent pour des raisons, il faut le dire, qui ne sont pas très claires. Le rôle des infections virales est évoqué. Mmh. Et qui donc mettent en communication la petite cavité pleurale dont je parlais avec les voies aériennes, donc de l'air diffus. Les autres causes de pneumothorax sont le même mécanisme, mais si votre poumon est malade. Par exemple, il y a des maladies, dont on avait déjà parlé, qui s'appellent l'emphysème, qui consiste à des espèces de dilatation des voies aériennes, qui les fragilisent un petit peu, et qui ont tendance à se rompre, par exemple. Alors, le tabac est-il un facteur de risque? Oui, mais ce n'est probablement pas le facteur de risque majeur.
Mmh. Pneumothorax chez un sujet jeune, c'est vrai que ça peut être étonnant de voir, on va dire, un profil général mince,
tout à fait.
En dessous de la trentaine, une occasion qui n'est pas extraordinaire, monter un escalier et un pneumothorax se déclenche.
C'est vrai, c'est vrai. Et il y a un morphotype assez usuel du sujet jeune. Alors, il peut y avoir des anomalies enzymatiques, mais c'est très rare. Et le plus souvent, il y a une périodicité du pneumothorax dans l'année. Mmh. C'est pour ça que les infections respiratoires sont suspectées, notamment virales. C'est-à-dire que si on regarde la fréquence des pneumothorax dans l'année, la répartition n'est pas uniforme. Il y a des pics qui sont à peu près corrélés au pic des épidémies des infections virales.
Est-ce que certains pneumothorax peuvent se résorber par eux-mêmes de manière spontanée?
Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, le premier principe, je crois qu'il faut garder sur la plaie, il m'a dit de la plaie, on en a parlé tout à l'heure, c'est ça fait mal. Le deuxième principe général que je dis toujours, moins on y touche, mieux on se porte. Alors vous allez me dire, ça c'est curieux. Mais non, franchement, moins on y touche, mieux on se porte. Il faut être invasif, à bon escient, et pas systématiquement. Et là, on voit que les pneumologues ont beaucoup modifié leurs pratiques sur ces 30 dernières années, parce que je serais venu il y a 30 ans, je vous aurais dit, il faut évacuer tous les pneumothorax.
Ça veut dire poser un drain.
Oui, alors pas obligatoirement. On est de moins en moins invasif. S'il est bien toléré, si c'est un sujet jeune, qui, à part l'épisode douloureux, qui peut se calmer avec un anti-douleur usuel, on est tout à fait en droit de le surveiller et de voir l'évolution et de refaire un cliché du thorax, qu'il n'y a pas de facteur de risque. Si c'est d'emblée trop important, si c'est un premier épisode, ça c'est un point important, on peut se contenter de l'évacuer avec une petite aiguille, puis on aspire et on regarde ce que ça donne. Si par contre, ça survient chez quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire de base où on voit qu'il y a un danger énorme, si jamais ça se majorait, effectivement, mettre un drain. Un drain, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne le sait pas. Un drain, c'est un petit tuyau qui est creux, qui est souple et qui est mis vers le haut pour drainer l'air du pneumothorax. Donc, l'adaptation du traitement, elle est fonction de la taille du pneumothorax, et surtout de sa tolérance et de savoir si c'est un premier épisode ou c'est quelque chose qui se reproduit.
Et la récidive, précisément, pourquoi?
Alors, la récidive, parce que je vous l'ai dit, le plus souvent, c'est en rapport avec des petites malformations, des dystrophies, sous le terme anglo-saxon de Blebs, qui sont à la surface du poumon. Mmh. Et si c'est survenu une fois, c'est pas impossible que ça survienne une deuxième fois. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça peut se reproduire. Il y a un point que je voudrais dire, parce que, en ayant eu moi-même beaucoup quand je joue au rugby, c'est les pneumothorax traumatiques. Vous savez, on a mal, on prend un partenaire de rugby ou n'importe quoi qu'une chute, et on se casse des côtes. Et très souvent, on voit des gens qui s'évertuent à faire des radiographies du grill costal pour essayer de voir le trait sur la côte. De toute façon, ce n'est pas grave, il n'y a rien à faire, à part attendre que ça se tasse. Par contre, la côte, si elle est vraiment cassée, peut avoir blessé votre poumon. Mmh. Et donc, lorsque vous suspectez une fracture de côte, ne nous énervons pas à faire des grilles costauds, faisons une radiographie du thorax pour voir si la fracture de côte a entraîné une complication. Soit une rupture du poumon avec un peu d'air, un pneumothorax, soit parfois, parce que c'est tout à côté, il y a juste en dessous des côtes des nerfs et des vaisseaux qui peuvent être abîmés par l'esquille osseuse et être responsables d'un saignement. Donc si vous avez une fracture de côte, moi je vous conseille non pas de faire un grille costal, mais de faire une radiographie du thorax.
Alors ça s'adresse aux médecins, même y compris après, par exemple, un accident de voiture,
c'est dans un choc traumatique. Et quelque chose de fréquent, c'est les accidents de vélo, avec le guidon. Mmh.
Alors, certaines expositions, on a parlé du tabac. Est-ce que dans le cadre professionnel, il y a justement des expositions qui sont particulièrement facteurs qui augmentent le risque de contracter une infection ou une maladie de la plèvre?
Alors là, on va passer, si je puis dire, discrètement, à l'aspect liquidien.
Voilà, épanchement.
Et épanchement aux pleurésies. Alors, les pleurésies, c'est du liquide en quantité anormale. Alors, il y a plusieurs causes qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres, sauf qu'elles aboutissent à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a du liquide. Alors oui, si on fait simple, la vie n'est faite que de maladies infectieuses, tumorales, et non infectieuses, non tumorales. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. Alors malheureusement, oui, il y a des maladies tumorales qui sont reliées à l'inhalation de fibres d'amiante.
Donc maladies tumorales, des cancéreuses.
Alors le plus, tout, alors là, il faut être prudent. Toute l'inhalation de fibres d'amiante ne donne en général pas grand-chose, à part des petites réactions inflammatoires, des espèces de calcifications pleurales. Mais malheureusement, certaines sont beaucoup plus graves et aboutissent à ce qu'on appelle un mésothéliome. Les gens qui sont exposés sont les gens qui travaillaient dans l'industrie électromécanique, les chantiers navals, etc. Certains militaires. Donc ça, c'est une maladie qui est très ennuyeuse, parce que tout ce qui touche la plèvre est très douloureux. Et le mésothéliome est une maladie qui est souvent très douloureuse, très invalidante. Donc oui, c'est l'inhalation de fibres d'amiante.
Qui se développe à bas bruit premier temps.
Ah oui, ça se fait en plusieurs années. Et la plèvre est très particulière, parce que outre l'aspect liquidien, elle est également très épaissie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut le voir sur les radiographies thoraciques simples, ça se voit mieux sur les scanners. On voit non seulement l'aspect liquidien anormal, mais on voit une plèvre qui est très épaissie.
Est-ce que certaines atteintes de la plèvre peuvent nécessiter une rééducation de la kiné respiratoire, par exemple ?
Alors, oui, si ça ne fait pas trop mal. Alors, la réponse est oui, notamment, surtout, lorsque vous avez une pleurésie infectieuse, parce que les pleurésies infectieuses qui compliquent certaines pneumonies, sont très riches en fibrine, et ça, par contre, il faut les évacuer rapidement. On pourra discuter de la manière de l'évacuer, c'est fonction de dispositifs qui sont disponibles localement, c'est-à-dire soit des drains, soit un chirurgien, soit les deux, soit de l'évolution également. Et cette fibrine est un peu épaisse et peut faire une espèce de gangue d'enveloppe un peu dure qui n'est pas aussi souple que la plèvre. Et la kinésithérapie est effectivement utile.
Pour s'en débarrasser.
Oui, pour s'en débarrasser, pour récupérer une capacité respiratoire correcte.
D'accord. Professeur Couder, on va poursuivre notre échange. On prendra des questions d'auditeurs en ligne. Ce sera juste après CK, addicté dans Priorité Santé sur RFI. Don't you know what you have done to me? Hey, girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Yeah. Why, mama? Organic kitchen. Why, mama? Why don't we feed you? Love, but I'm my overlord. Get wine, some more. Let the music take control of you. Close to me, need you close to me. Can you not need them? Give you close to me. I'm gonna take my time with your body, oh yeah. Like a surgeon, precise with your body, oh yeah. Oh, yeah, let's make a movie. Don't you know what you have done to me? Hey, girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. I'm gonna take my time with your body, yeah.
Like a surgeon, precise with your body. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Let's make a movie.
Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui des maladies de la plèvre, difficultés respiratoires, essoufflement, douleurs thoraciques derrière ces symptômes de pneumothorax ou parfois pleurésie, toujours en compagnie du professeur Louis-Jean Couder, professeur de pneumologie. Alors dans certains contextes géographiques ou socio-économiques, professeur, un épanchement pleural, ça peut être évocateur d'une pleurésie tuberculeuse. C'est quoi exactement ?
Ah, vous avez tout à fait raison. C'est avec la tuberculose demeure une maladie malheureusement extrêmement fréquente. Et la tuberculose est principalement pulmonaire, mais vous avez compris quand même que la plèvre est juste à proximité du poumon. Et une atteinte peut tout à fait survenir au niveau de la plèvre, comme d'autres organes. Et en fonction effectivement de la localisation, de l'âge, la localisation, je veux dire non pas la localisation sur le corps, mais l'endroit où habite le sujet, la probabilité qu'une pleurésie est telle ou telle cause va varier. C'est simple à comprendre. Si vous êtes malheureusement atteint d'un cancer multimétastatique et qu'apparaît une pleurésie, malheureusement, il y a quand même 9 chances sur 10 que la pleurésie soit une métastase supplémentaire. Si par contre, vous êtes un jeune femme ou un jeune homme d'une trentaine d'années habitant dans une zone de haute endémie tuberculeuse, l'apparition d'une pleurésie a 9 chances sur 10 d'être tuberculeuse. Alors, c'est un point très important. Alors,
certes, est-ce que, d'ailleurs, ça peut permettre de dépister une tuberculose qui n'avait pas été jusque-là diagnostiquée ?
Alors, on ne peut pas dire dépister à partir du moment où il y a
un diagnostic.
Une maladie. On peut dire diagnostiquer. On peut dire diagnostiquer. On peut dire diagnostiquer. Alors, là, il y a quand même des bonnes nouvelles qu'il faut donner à vos auditrices et à vos auditeurs. La tuberculose, le pneumologue, il est content dans les pays occidentaux, lorsqu'il fait un diagnostic de tuberculose. Pourquoi ? Parce que le traitement est assez simple, parfaitement codifié, et qu'il a un taux de succès qui est de 99%. Si on avait un tel taux de succès dans toutes les maladies, il n'y aurait plus grand monde dans les hôpitaux. Donc, si le traitement est pris, et c'est ça le problème, c'est l'adhérence au traitement, parce que c'est une maladie qui ne se développe pas en quelques jours, qui se développe en quelques semaines, et ça c'est assez facile à comprendre. Maladie lentement progressive, traitement prolongé. Maladie rapide, style grippe, ça se guérit en 4-5 jours. Donc c'est un traitement de plusieurs mois, mais de quelques comprimés, en général très bien toléré, avec une guérison quasi certaine.
Donc l'important, c'est le bon suivi du médicament, de la prise du médicament.
C'est l'adhérence au traitement, parce que la non-adhérence au traitement, elle est ennuyeuse pour le sujet, évidemment. Elle est ennuyeuse aussi pour la communauté, parce qu'elle va engendrer des modifications de la sensibilité des bacilles tuberculeux. Elle va les rendre moins sensibles aux antituberculeux, exactement comme certains microbes plus banaux lors des angines. Et donc, si j'ai un message à faire passer à vos auditrices et à vos auditeurs, c'est si vous êtes atteint, surtout, prenez bien régulièrement votre traitement, vous allez guérir. Il ne faut pas baisser les bras.
On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo.
RFI à Matadi 98 FM.
En ligne avec nous, c'est Papy. Papy, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Papy, vous avez 45 ans. Vous, c'est à l'adolescence que vous avez contracté une maladie de la plèvre, laquelle ?
C'était de la pleurésie.
Oui.
Quand j'avais 15 ans, j'ai subi une intervention chirurgicale pour un kyste pancréatique.
Oui.
Mais l'année qui a suivi, l'année d'après, j'ai eu des complications, j'arrivais plus à respirer. Et c'est comme ça qu'on m'a transféré aux cliniques universitaires de Kinshasa, où on a diagnostiqué une pleurésie du côté gauche.
Et le lien a été fait, papy, entre l'opération chirurgicale et la survenue de la pleurésie ?
C'est là justement la question, parce que j'ai subi des ponctions pleurales à répétition et une biopsie pleurale, mais je n'ai jamais obtenu les résultats. Je n'ai jamais su ce qui avait provoqué cette pleurésie.
Au début, l'opération, c'était pourquoi comme problème la première opération que vous avez subie ?
En fait, c'était un kyste pancréatique. J'ai subi une laparotomie, c'était bien passé, mais par après, j'avais des fortes douleurs au niveau de la poitrine. Et c'est après des examens des radios que j'ai constaté, d'ailleurs, au niveau du cliché, que mon poumon gauche ne se voyait pas, c'était tout blanc. Et comme je n'arrivais plus à respirer, on a commencé à procéder par des ponctions pleurales après 48 heures, après 48 heures. Parce que j'avais du mal, j'ai suffoqué, j'arrivais plus à respirer.
Pour être rassuré aujourd'hui, vous allez bien? Il n'y a plus de séquelles de tout ça?
Ce qui est vrai, pour l'instant, je vais bien. Il n'y a plus de séquelles. J'ai été soigné. Et après 9 mois à l'hôpital, presque une année, je suis sorti des cliniques universitaires de Kinshasa.
Ah oui, vous êtes resté quand même très très longtemps. Alors évidemment, après tout ce temps, j'ignore si le professeur Louis-Jean Couder peut avoir des pistes vraiment très claires. En tout cas, par rapport à ces différents symptômes, sur la cause de la pleurésie, c'est possible de savoir? J'imagine que c'est compliqué.
Bonjour papy. Alors effectivement, ça va être difficile pour moi de vous faire un diagnostic rétrospectif de ce qui vous est arrivé il y a 30 ans en ne connaissant pas votre dossier. Mais à la limite, on peut évoquer sans aucune certitude des possibilités. Comme je vous l'avais dit, il y a schématiquement 3 causes de pleurésie, les maladies infectieuses, les maladies tumorales et puis les maladies non infectieuses, non tumorales. Manifestement, vous êtes toujours parmi nous 30 ans après, donc probablement vous êtes dans la troisième catégorie, c'est-à-dire des maladies non infectieuses, non tumorales. Alors effectivement, après une chirurgie abdominale haute, c'est-à-dire procréa à foie, on peut avoir des réactions liquidiennes au niveau du ventre. C'est ce que vous avez eu manifestement, parce que vous nous signalez, vous avez eu de l'ascite. L'ascite, c'est comme un épanchement pleural liquidien, c'est-à-dire un liquide autour du péritoine dans le ventre. Et le diaphragme, qui est le muscle qui sépare l'abdomen du thorax, n'est pas non plus une barrière étanche. C'est pas le mur de Berlin. Et donc, il est poreux, et dans un sens comme dans un autre, du liquide peut passer. Alors, on a quand même du mal à imaginer qu'aucun lien chez un jeune homme qui est opéré du pancréas, d'une lésion kystique, qui a une réaction liquidienne dans le ventre et qui a une réaction liquidienne l'étage du dessus. Sans pouvoir être formel, on a envie de dire qu'il y a un lien de causalité. Et ce qui vous est arrivé n'est pas exceptionnel et en général évolue toujours bien. Ben finalement, comme c'est votre cas, parce que je vois que vous nous dites que 30 ans après, vous vous portez comme un charme. Oui, il y a donc des pleurésies de cause plus rares qu'il faut savoir évoquer. Mais après qu'il ait été fait ce que vous avez eu comme examen, c'est-à-dire d'éliminer une maladie infectieuse, et notamment à nouveau une tuberculose, c'est pour ça que vous avez une biopsie pleurale. Et puis, une maladie chez un jeune homme de 15 ans tumorale, ça, c'est quand même rarissime.
D'accord. Voilà pour ces explications. Un grand merci à vous pour votre appel, papy. Très, très bonne journée à Matadi. On part maintenant pour le Tchad. Avec nous en ligne de N'Djamena, c'est Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour. Priorité santé.
Alors, vous vous appelez au sujet de la santé de votre mère, Abdoulaye, avec la maladie qu'on lui a diagnostiquée, qui porte un nom assez compliqué. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît?
C'est de la pachypleurite.
Pachypleurite ou pachypleurite, je ne connais pas forcément la prononciation. C'est quoi? On fait comme on veut?
Oui, c'est un peu comme pachyderme.
Voilà. Alors, c'était quoi les symptômes qui avaient poussé à consulter votre maman?
Bon, ma maman, au début, elle se portait bien, elle était garde malade. Du coup, de temps en temps, elle se plaignait d'une douleur thoracique. C'était pas aussi très intense, invalidante. On l'avait consulté et puis à la radiographie, ils ont diagnostiqué il y avait une pneumonie, mais il y a également une partie pleurite. On l'a traité sous antibiotiques et puis antalgiques. Après, elle a retrouvé la santé, tout ça, mais on nous a dit que la partie pleurite restera toujours sauf une chirurgie. Alors, c'est situation, je vais passer à demander quelques questions.
Allez-y, je vous en prie, Abdoulaye, pour vos questions, allez-y.
Alors, quelle serait l'évolution naturelle de cette maladie au cours du temps? Comme elle devrait absolument subir une chirurgie, sinon, comme actuellement elle est asymptomatique, je demanderai également toujours par rapport à l'évolution, y a-t-il une durée moyenne pendant laquelle le patient devient de plus en plus asymptomatique? Et quels sont les facteurs aggravants de cette complication qui est là toujours en elle?
Moi, j'ai une question, Abdoulaye. Elle respire bien, votre maman? Elle n'a pas de problème respiratoire ou d'essoufflement?
Non, au début, quand elle faisait des efforts physiques, elle avait des essoufflements, mais actuellement, non, elle se porte bien. Je demande également les facteurs aggravants pour nous permettre de faire la prévention et à quel moment la chirurgie deviendra obligatoire.
D'accord. Alors, si on dit pachypleurite, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui change au niveau de la plèvre?
Alors, ça veut dire qu'elle s'est épaissie. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction inflammatoire, une espèce de cale, un peu comme quand on se casse le tibia, il y a une réaction avec de l'os qui prolifère. Là, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi évidemment, mais effectivement, c'est en général ce qu'on voit chez des gens qui ont eu des infections, qui ont guéri plus ou moins toutes seules, parce que ça peut arriver, qui ont des pneumonies qui ont été compliquées par un épanchement pleural, et finalement, tout est rentré dans l'ordre progressivement. Probablement, y avait-il suffisamment de liquide pour éventuellement avoir eu besoin d'être évacué à l'époque, mais finalement ça s'est résorbé, et le liquide s'est résorbé, mais au prix d'une espèce de cicatrice un peu inflammatoire qui rend la plèvre épaissie. Et en général, il ne se passe plus rien. Donc on va essayer de rassurer votre auditeur, c'est-à-dire d'ailleurs sa maman a l'air de maintenant de se...
Ça ne veut pas dire que ça va évoluer forcément
non,
vers quelque chose de grave.
Pas du tout, pas du tout. Et en général, bah, il ne se passe rien. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut éviter, parce qu'il nous a dit que sa maman ne se plaignait de rien, c'est d'y toucher. C'est ce que je vous disais en introduction, la plèvre, moins on y touche, mieux on se porte.
Ça veut dire, j'imagine, une situation, c'est pas parce qu'il aurait l'occasion de la faire opérer qu'il faudrait le faire, loin de là.
Je dirais qu'il faut surtout ne pas le faire.
D'accord.
Il faut surtout ne pas le faire parce que la chirurgie des maladies pleurales est douloureuse. C'est-à-dire que, comme Abdoulaye nous a dit que sa maman se plaignait de rien, s'il l'opère, elle va se plaindre de quelque chose. Donc, elle va être douloureuse. Donc, surtout ne pas y toucher. Alors maintenant, il nous a posé une deuxième question qui est éviter que ça s'aggrave. La pachypleurite en elle-même ne va pas s'aggraver. Par contre, il faut éviter qu'elle développe d'autres maladies. Donc, qu'elle fasse, j'espère que sa maman ne fume pas, qu'elle se vaccine contre la grippe, qu'elle prenne des précautions, c'est parce que d'hygiène respiratoire, et qu'elle maintienne une bonne activité physique.
Moi, j'ai une question dans le contexte, justement, de Djamena. Votre maman, Abdoulaye, est-ce qu'elle fait la cuisine en intérieur?
Oui, elle fait la cuisine.
Et vous faites la cuisine avec quoi dans la maison comme source de chaleur ou de combustion?
Bon, généralement, elle est toujours au village. De temps en temps, elle vient à la
capitale. D'accord, donc c'est au feu de bois au village encore, j'imagine?
Oui, c'est avec les bois.
Avec le bois à l'intérieur ou à l'extérieur?
À l'intérieur.
Voilà, donc là, il y a une préconisation.
Ça, c'est très important parce que c'est une cause de... d'inflammation des voies aériennes, exactement comme le tabac. C'est ce qu'on appelle une bronchopathie chronique obstructive. Et donc, le conseil que je donnerai à votre maman, c'est plutôt de faire la cuisine à l'extérieur. Je pense que ça doit être compliqué pour elle de changer sa source de chauffage et de cuisson.
Donc
ça, c'est très compliqué. Mais par contre, la faire à l'extérieur, ça, c'est quand même assez envisageable.
C'est possible, Abdoulaye, dans la concession, de sortir le réchaud à l'extérieur pour cuisiner? Ça se fait fréquemment dans les villages, ça. Hein,
oui, c'est possible en période où le vent est moins souple.
Oui, quand il y a moins de vent.
Donc c'est ça. Alors ne vous inquiétez pas. Votre maman, avoir une pachypleurite qui ne la gêne pas, ne va pas empêcher d'elle de faire une joyeuse centenaire. Ça ne va pas la gêner outre mesure, mais il faut qu'elle protège sa santé respiratoire.
Sa santé respiratoire. Voilà pour ces conseils, Abdoulaye. Très, très bonne journée. Un grand merci à vous d'avoir participé à l'émission. On va maintenant donner la parole à l'un de vos confrères en Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan 97.6 FM.
Professeur Bernard Ngorankofi, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour aux collègues aussi.
Bonjour.
Enchanté. Vous êtes le chef du service de pneumologie du CHU de Cocody d'Abidjan, membre de la Société de pneumologie en langue française, ancien président de la Société ivoirienne de pneumologie. Professeur Kofi, est-ce que la prise en charge du pneumothorax est quelque chose de courant dans votre service au CHU?
Oui, le pneumothorax, la prise en charge, elle est fréquente. Mais peut-être avant de parler de prise en charge, il faut que j'évoque un peu les principales causes du pneumothorax chez nous.
Allez-y, je vous en prie.
Les causes sont avant tout infectieuses. Tuberculose, bactéries, parasites. Il ne faut pas oublier les parasites dans notre environnement, notamment l'amibiase pleuropulmonaire. Et très souvent, ici, il s'agit d'associations d'épanchements liquidiens et d'épanchements gazeux, qu'on appelle hydropneumothorax.
Ça veut dire qu'on a la conjugaison de la pleurésie et du pneumothorax.
Et du pneumothorax dans les causes infectieuses le plus souvent, parce qu'il y a une atteinte parenchymateuse sous-jacente et qui va, par contiguïté, s'étendre au pneumothorax.
Quand vous dites une atteinte parasitaire, quel type de parasite transmis de quelle manière ?
L'amibias pleuropulmonaire, qui est une parasite fréquente en milieu tropical et qui va se transmettre par l'intermédiaire, qu'on regroupe sur le terme de périfécal, c'est-à-dire l'eau non stérile, l'eau non potable, les aliments mal nettoyés, et les mains aussi.
Ça veut dire qu'en termes de remède, on n'est pas simplement, on va dire, dans la mécanique, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, mais on va être également avec un traitement médicamenteux antiparasitaire ?
Oui, quand il s'agit de l'amibiase, il y a d'autres parasites dans notre milieu qu'on voit beaucoup plus rares, tels que la paragonimose, et puis parfois la leishmaniose, chez certains patients immunodéprimés. Et puis même quelques étiologies virales.
Est-ce que les patients viennent consulter rapidement ou est-ce que, comme pour beaucoup de pathologies dans votre contexte, vous observez qu'il y a un grand retard de prise en charge ?
Alors, le professeur Coudet a dit quelque chose. Les pneumologues, on n'est pas nombreux, encore moins dans les pays en développement, ce qui fait que les patients sont vus à des stades très souvent avancés. Et qui fait que la prise en charge, quand vous avez un hydropneumothorax à l'hôpital, on est inquiet, pas pour le pronostic, on est inquiet parce que c'est des sujets qui vont avoir de longs séjours, un mois, 45 jours, parce que pour drainer du liquide pur, c'est simple, pour drainer du gaz, c'est un peu moins simple, un peu plus simple, mais quand c'est l'eau et le gaz, c'est-à-dire l'hydropneumothorax, et avec des séquelles, des parties pleurites, des épaississements tout autour, c'est extrêmement compliqué. Et parfois, on aboutit, sur certains patients, à une chirurgie associée.
Est-ce que ça veut dire aussi que dans les centres de santé primaires, on a un petit peu du mal à dépister ce genre d'atteinte ou c'est quelque chose qui est bien connu de la part des soignants ?
Alors, je reviens toujours à la première phrase que j'ai faite tout à l'heure. Les pneumologues, on n'est pas nombreux.
C'est ça. Non, mais pour vous orienter, justement, est-ce que les soignants, on va dire infirmiers et soignants, connaissent ce genre de pathologie et disent bah, « Écoutez, madame, monsieur, il faudrait vraiment aller au CHU, aller en ville pour consulter ?»
Oui, on a certaines orientations comme ça. Mais très souvent, la pneumologie, les pathologies pulmonaires, tout praticien, essaie de, essayer, il se dit, écoute, ça m'a porté, je peux le traiter. Et parfois, c'est lorsqu'il y a des complications, malheureusement.
Alors, est-ce que d'autres cas, y compris de maladies de la plèvre, vous le remarquez aussi dans votre contexte, sont associés à des diagnostics de tuberculose ?
Ah oui, si je commence, c'est-à-dire, pour que vous compreniez le schéma, en pathologie pulmonaire, ce sont les mêmes pathologies, à quelques éléments près, en Europe qu'ici. Mais c'est la répartition. Voilà. Dans les épanchements pleuroliquidiens ou pleurésies, essentiellement inflammatoires, c'est 70-80% que nous voyons à l'hôpital, de tous les épanchements pleuroliquidiens inflammatoires. Ensuite, vous avez le pneumothorax, l'épanchement gazeux. Comme je l'ai dit, et très souvent, nous avons l'association pleurésie et pneumothorax à cause des causes infectieuses, c'est l'hydropneumothorax. Et puis, il y a l'auditeur tout à l'heure qui a souligné un élément qui est important, c'est que compte tenu des épanchements liquidiens inflammatoires, qu'elles soient tuberculeuses ou autres bactéries, nous avons très souvent une partie pleurite. Le terme qu'il a, c'est l'épaississement de la plèvre et qui parfois peut constituer un motif de consultation.
Donc tout ça qui va être dans la suite de la prise en charge. On a bien compris tout ça, c'était extrêmement intéressant. Un grand merci à vous, professeur Bernard Ngorankofi. Merci, très très bonne journée en Côte d'Ivoire. On arrive à la conclusion de notre échange. Professeur Louis-Jean Coudert, on a bien compris, il va y avoir une fréquence de certaines pathologies qui va être différente, bien sûr, en fonction des agents pathogènes, parasites, agents infectieux. Pour la conclusion, on a peu parlé de la chirurgie de la plèvre. Dans quel cas est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que finalement, c'est un recours assez rare ?
C'est un recours assez rare, oui. Les indications sont soit visées diagnostiques, mais c'est rare. C'est lorsqu'on voit une plèvre épaissie, qu'on suspecte une maladie cancéreuse, un mésothéliome ou une métastase chez quelqu'un dont le cancer n'est pas clairement connu. Mais maintenant, il y a des techniques alternatives avec des biopsies qui peuvent être guidées par scanner. Et puis, il y a l'aspect traitement. Et là, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour évacuer le plus rapidement possible les liquides purulents qui compliquent certaines pneumopathies infectieuses. Donc, entre le drain, des produits qui lisent la fibrine et la chirurgie, c'est un peu au cas par cas. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. C'est un, faites une radiographie du thorax toute bête, examen quand même qui est assez facilement disponible. Et deux, attention, surtout en Afrique, un épanchement liquidien, et je pense que mon collègue sera d'accord, on doit retenir qu'il est potentiellement une tuberculose jusqu'à preuve du contraire.
Donc on fait l'examen qui correspond. Professeur Couder, un grand merci. On va parler nutrition juste après Silencio, titre interprété par Patrick Watson et November Ultra. On retrouvera Bintou Chersek juste après.
I lost my voice 'cause I talked too loud, like an old friend that ain't hanging around. Oh, when there's quiet, well, I do my best, but I can't stop making this shit up in my head. But that's alright, I think I see the light. Chasing, looking for a reason, won't you let it go? 'Cause you don't know. Then you take a bow, watch the quiet smile and say, yeah. I've been too many loves, I've been too many tries, too many times, losing my mind, thinking about what I said last night. I think you like me better since I lost my voice. Something about this choir.
No sé si bien o mal, la vida sigue igual. No hay sentido en las palabras de la gente.
¿Cómo va la vida?
Si quieres la verdad, me cuesta respirar. A veces ya no quiero levantar. Oír sin escuchar, no sé qué preguntar. Hubiera deseado que me escuches.
It was late last night, you know. I was laying in my bed.
Bien manger, alimentation équilibrée pour rester en pleine forme, c'est maintenant dans Priorité Santé. Avec vous, Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes diététicienne nutritionniste à Dakar et on va parler aujourd'hui de la carence nutritionnelle la plus répandue dans le monde, à savoir la carence en fer.
Tout à fait Caroline, le fer qui est un minéral qui est essentiel à la vie. Hein. 70% du fer qui est contenu dans l'organisme se trouve dans les globules rouges du sang où il est essentiel à leur structure et pour le transport de l'oxygène à travers l'organisme. Et donc c'est ce rôle du fer qui explique qu'une carence en fer puisse provoquer une anémie, c'est-à-dire une réduction du nombre de globules rouges en dessous de la norme.
Alors est-ce qu'il y a, Bintou Chersek, des groupes ou des personnes plus à risque d'avoir une carence en fer, voire une anémie?
Absolument. D'abord, les femmes en âge de se reproduire, c'est-à-dire les femmes âgées de 15 à 49 ans. D'après l'OMS, l'anémie touche un demi-milliard de femmes dans cette catégorie. Ensuite, il y a les jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui sont en forte croissance. Et là, il y a 269 millions d'enfants dans cette tranche d'âge qui sont touchés par l'anémie. Et enfin, il y a le groupe des femmes enceintes, 32 millions, qui étaient touchées par l'anémie en 2019. Et les régions les plus concernées par cette anémie, par la carence en fer, sont l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.
Et maintenant, si on regarde du côté des conséquences de cette carence en fer, conséquences de l'anémie.
Eh bien, des conséquences assez difficiles, c'est la fatigue, c'est l'épuisement vraiment, l'essoufflement, les vertiges, la baisse de l'immunité, ce qui veut dire que les personnes qui sont anémiées sont plus à risque d'infection, la baisse des capacités intellectuelles chez les enfants, c'est vraiment grave, risque de naissance prématurée, en général, baisse de la productivité. Donc, comme vous le voyez, ce sont ces conséquences-là qui ne sont pas des moindres.
Et si maintenant on regarde du côté des causes de ces carences en fer ?
Il y en a plusieurs, mais la principale est un apport alimentaire insuffisant en fer, et surtout en fer biodisponible, c'est-à-dire le fer dont le corps peut disposer facilement. Par rapport aux femmes enceintes, leurs besoins en fer sont tellement importants qu'il leur est très difficile de combler ces besoins par l'alimentation seule. Il existe aussi des causes non alimentaires, les pertes de sang abondantes lors des règles et des infections, notamment les infections bactériennes, virales ou parasitaires, qui peuvent réduire l'absorption du fer ou entraîner la fuite du nutriment. Il existe aussi des maladies comme la drépanocytose qui peuvent entraîner des carences en fer et évidemment l'anémie.
Alors, quels sont ces aliments qui peuvent être donc les plus riches en fer et donc fortement recommandés ?
Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a dans les aliments deux types de fer. Premier type de fer, c'est le fer héminique qu'on trouve dans la viande rouge, le poisson, dans les parties brunes de la volaille, les abats. Et ce fer est très biodisponible, c'est-à-dire qu'il est bien absorbé par l'organisme à peu près 30%. Le deuxième type de fer, c'est le fer non héminique. C'est celui qui est associé aux végétaux comme les légumineuses, les lentilles, les haricots, le niabé et certains légumes à feuilles vertes comme l'oseille, mais aussi les céréales non raffinées. Mais comparé au fer héminique, celui-ci est peu biodisponible, il est absorbé qu'à à peu près 2 à 5%.
Donc on a forcément besoin de conseils pour prévenir cette carence en fer grâce à l'alimentation, surtout en ce qui concerne les groupes les plus à risque.
Oui, pour augmenter les chances d'avoir un apport en fer correct, il faudrait d'abord consommer de la viande rouge et les abats au moins 3 fois par semaine, consommer les légumineuses dont je parlais, les lentilles, les haricots blancs et haricots rouges, noirs, etc., au moins 3 fois par semaine, et puis essayer de consommer moins de riz blanc et plus de céréales complètes quand elles sont disponibles. Deuxième point, il faut éviter de boire du thé juste après le repas, parce que ce thé-là réduit l'absorption du fer non héminique. En revanche, il faudrait manger un fruit juste après le repas, parce que là, on mange de la vitamine C, et là, ça augmente l'absorption de ce fer. Et enfin, pour les enfants, au moment de la diversification de leur alimentation, donc à 6 mois, où ils sont à risque d'une carence en fer, il est impératif d'introduire dans leur alimentation des céréales fortifiées en fer, à leur donner au moins 2 fois par jour, en plus évidemment des protéines animales riches en fer héminique qu'on va inclure dans les purées.
Merci pour tous ces conseils, Bintou Chersek. On peut les retrouver, ces conseils, sur le podcast de l'émission Priorité Santé, à toute heure, notamment sur l'application Pure Radio. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Talim Pouot. Demain, on va parler de la crise aux urgences qui n'en finit pas en France. Comment expliquer cette saturation des services ? Quelles pistes pour réduire l'attente, améliorer l'efficacité des prises en charge ? On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.